Le meilleur de Sud Radio. Micha Agar.
Bonjour, bienvenue et bon réveil en ce samedi matin. C'est Sud Radio, le meilleur de Sud Radio. On est ensemble pendant une heure pour revivre les meilleurs moments de cette semaine avec Birkhoff dans tous ses états. Dans quelques instants, les vraies voix, le rendez-vous humour du grand matin Sud Radio avec Walter et Cédric Cizère. Et puis Valérie Expert dans le 10h midi média qui recevait cette semaine Laurent Ruquier. On l'écoute tout de suite. Il venait pour son livre Finalement con.
Le meilleur de Sud Radio, ça s'est passé cette semaine.
L'invité du jour, c'est Laurent Ruquier. Bonjour Laurent.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Bah oui, Gilles, il m'envoie des textos. Ah, il y a Laurent Ruquier qui vient et tout. Donc, c'est vrai qu'on vous attend depuis 4 ans dans cette émission
média.
C'est vrai,
écoutez, je serais venu plus tôt si vous m'aviez dit.
Voilà. Non, on est ravis.
J'ai pas eu tant de choses que ça à vendre. Alors voilà, je suis en promo, je fais la tournée des popotes.
Voilà, vous faites la tournée des propotes. Des popotes, pas des propotes, des propotes propres.
Des potes pro.
Voilà, des potes pro. Finement con. C'est votre livre qui paraît chez Flammarion. Je ne pense pas tout ce que je ris. Finement con, effectivement, moi, j'avais pas.
Vous n'avez pas compris confinement.
Parce que dans confinement, il y a finement.
Ouais.
Voilà.
Donc finement. C'est le verlan en fait de confinement.
C'est le verlan. Alors l'homme qui ne dormait jamais, Laurent Ruquier, tous les samedis soirs, 23h30 sur France 2, on est en direct. Les enfants de la télé tous les dimanches à 18h25. Les grosses têtes évidemment sur une radio concurrente RTL tous les jours 15h30 18h. Ça vous arrive de dormir quand même un peu ?
Oui, quand même. Non, ouais. Je dors bien 5-6 heures par nuit tout de même.
Oui, parce que vous racontez, c'est à la fin du livre, que vous à 6 heures tous les matins, vous écoutez...
Ah oui, ça, je suis debout à 6 heures, ça c'est vrai, et j'arrive à peu près vers 6h30 à RTL tous les matins.
Ouais. Et alors, vous faites quoi ? Vous écoutez la radio, vous lisez les journaux ?
Je lis surtout les journaux, tout en écoutant la matinale de ma station, c'est normal.
Oui, de ma station,
Encore que non, il y a des quarts d'heure pendant lesquels je zappe.
Lesquels ?
Vous devinerez.
Non. Je sais pas, la politique étrangère.
Tous les imitateurs, vous savez bien.
Ah oui, d'accord. Donc vers 9h moins le quart. J'ai bien compris. Mais vous dites en épluchant les journaux, en écoutant RTL. Il y a une préface extrêmement engagée sur ce qu'est l'humour aujourd'hui, sur la difficulté aujourd'hui pour les humoristes de s'exprimer.
On aurait dit Michel Sardou qui a écrit la préface. Il y avait un petit côté vieux con comme ça sur l'humour.
Non, pas vieux con. Vous êtes content d'avoir l'âge que vous avez aujourd'hui, vous aimeriez pas être humoriste
Je suis content en tout cas d'avoir vécu les années radio et mes débuts il y a quelques années, pas maintenant, parce que je crois que ce serait vraiment plus difficile et c'est sûrement plus difficile aujourd'hui.
Non, mais je rigolais sur Michel Sardou, mais on sent que cette époque vous pèse aussi.
C'est pas que l'époque me pèse, parce que moi j'ai pas envie de dire c'était mieux avant, mais c'est vrai qu'on...
Bah si, c'était mieux avant. Bah quand même. Non,
c'est quand
je même
crois
ce
pas.
Que vous dites.
Il y avait des choses moins bien, et puis il y a des choses mieux, mais c'est comme tout, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, mais oui, en ce qui concerne en tout cas la liberté d'expression, je crois que c'est le moment de se battre pour veiller à ce que toutes les chapelles n'empêchent pas les gens de s'exprimer. Voilà, ça
30,
c'est vrai.
30 ans de radio, vous allez fêter...
Ouais, c'était une occasion supplémentaire.
Ouais,
30 ans de radio nationale, parce qu'encore avant, j'ai fait les radios locales.
Vous avez fait des petites radios locales.
Et pour revenir, Valérie, sur cet édito et sur le fait où on ne peut plus rien dire et tout ça, je me suis amusé à sortir ce son qui date
C'est pas qu'on ne peut plus rien dire.
Non.
Parce que c'est pire que ça. Il y a des endroits où on peut tout dire, c'est Twitter.
Sur les réseaux sociaux. C'est très juste.
C'est ça que je démontre dans l'avant-propos. Je crois que c'est ça qui est intéressant, parce que je pense que vraiment, on n'est pas si nombreux à le dire. C'est que, en fait, sur Twitter, vous avez des gens qui vous insultent, qui ont des propos racistes, qui ont des propos homophobes, qui ont des propos contre les femmes, contre les juifs, contre les musulmans, contre tout. Il y a une haine terrible. Mais c'est sur ce même réseau social que certains lobbies, certaines associations, certains comités se font un malin plaisir d'empêcher les humoristes, et parfois les journalistes, mais... Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les humoristes, de faire une blague sur un sujet ou un autre. Alors, ça devient... Mais c'est un paradoxe. Un paradoxe total. En fait, on peut dire ce qu'on veut, à condition que ce soit sur Twitter.
Vous dites que souvent, Twitter est devenu une sorte de... Enfin, ce n'est pas un échantillon représentatif de la population.
Ah, ça, de toute façon,
Mais souvent, les journalistes, les médias ont tendance à prendre...
C'est l'AFP aujourd'hui.
Voilà, c'est l'AFP d'aujourd'hui. Oui. C'est-à-dire qu'un buzz sur Twitter devient la vérité absolue. Alors, Gilles veut placer son son.
Oui.
C'est
de
pas son.
De ce qui aurait... Mais oui, madame. Et ce qui aurait pu faire polémique en 97. Écoutez, c'est un certain... Laurent Ruquier, qui est alors un jeune comique chez Patrick Sébastien en 1997. Écoutez ce que vous disiez, c'était par rapport, je l'ai lié au 1er mai, parce qu'on on l'était, et c'était sur le Front National et le 1er mai.
Et lui, il défile Le Pen ce jour-là, non pas pour célébrer la fête du travail, comme tout le monde normalement le 1er mai, mais pour fêter, qui ça ? Jeanne d'Arc, je vous remercie pour les voix. Bon, ça vous surprend pas, ça quand même, Le Pen avec Jeanne d'Arc, c'est étonnant. D'autant plus que tout le monde le sait, historiquement, Jeanne d'Arc était noire. Sur la fin. Ah si ! Si, si, si !
C'était le bon temps que je faisais de la scène.
Pourquoi vous avez arrêté la scène ?
Parce que c'était pas mon truc, de toute façon. Ça marchait à la fin, j'étais plutôt content. Je remplissais des belles salles, hein, Casino de Paris, Théâtre de Paris. J'ai fait des tournées pendant des années et des années. Mais la télévision et la radio ont accaparé mon temps, quoi, il faut bien dire. Et ça devenait vraiment épuisant de faire à la fois les tournées et la radio et la télé.
Et j'en ai un petit peu.
Et puis surtout, il y a tellement de gens qui ont débarqué depuis. J'ai passé l'âge, quoi.
J'ai un petit deuxième son choquant. Alors, je le remets dans le contexte. Pourquoi c'est toujours en 1997. Emmanuel Béart, vous souvenez, la comédienne s'était enfermée à l'église Saint-Bernard avec des sans-papiers et ça vous avait fait. Vous savez ce que vous avez dit ?
Je me souviens plus, non.
Alors, écoutez,
il dit tellement de conneries.
Évidemment, j'ai failli aller par exemple à l'église Saint-Bernard manifester ma solidarité envers les sans-papiers. En plus, ça m'aurait permis de voir Emmanuel Béart de près. Cette façon qu'elle a eue de se laisser pousser les lèvres en signe de solidarité avec les Africaines. Je dois dire.
Ça, c'est plus possible.
Je mets ma main sur la bouche en disant, mon Dieu, qu'est-ce qu'il a dit ?
Non, oui, mais ça, regardez, ça faisait énormément rire.
Ça fait rire, mais
et d'ailleurs, encore aujourd'hui.
Mais ça serait plus possible, justement. Parce que là, c'est sur le visage.
Sur scène, si, c'est possible. Ouais. Sur scène, tout est toujours possible.
Oui. Mais en télé ?
En télé, non. Mais je ne suis pas sûr qu'en télé, d'ailleurs, à l'époque, je pouvais dire ce genre de choses non plus.
Le meilleur de Sud Radio.
Valérie espère que vous retrouverez à partir de lundi, alors en best-of, hein, puisque lundi, c'est férié. Mais mardi en direct de 10h à midi pour le 10h midi sur Sud Radio. Les vraies voix, dans quelques instants, on écoutera un extrait de cette semaine. Mais d'abord, un petit rendez-vous humour avec Cédric Cizère dans le Grand Matin Sud Radio, qui en plus mercredi était en direct de la terrasse des Deux Magots à Paris, hein, puisque Sud Radio fêtait la réouverture des terrasses. Et c'est l'occasion de nous faire rire autour d'un bon café.
Le meilleur de Sud Radio, ça s'est passé cette semaine.
Il est arrivé masqué, mais à l'air libre. Cédric Cizère est avec nous. Ils l'ont libéré. Hein. Libéré, délivré, enfin.
Ah, je connais très bien cette chanson. C'est moi qui l'ai écrite et je suis coiffé pareil que la Reine des Neiges. Bonjour, mes chers compatriotes.
Bonjour, mon cher citoyen.
Allez, mettez une musique. Oh là là, vous reconnaissez les Deux Magots, pour moi, tout de suite, c'est Rabbi Jacob.
C'est vrai.
Oui, bien sûr que oui, avec Bourville, bien sûr, ce formidable film avec Bourville.
Oui, Funès.
Ah pardon, excusez-moi, j'ai confondu, je confonds tout le temps, Gabin, de Funès.
La cuisine au beurre.
Exactement, on aime beaucoup la cuisine au beurre. Alors je suis tellement ému, les Deux Magots, c'est quand même l'endroit où Fares enlève Mohamed Larbi Sliman.
Oui, c'était Pharaon d'ailleurs. Fares, c'était Pharaon.
Magnifique, j'adore les Deux Magots, c'est un endroit mythique. Ça sent bon l'âme de tous ces grands artistes qui venaient ici. Bon, ça sent aussi la tartine au crottin de chèvre chaud, il faut le dire quand même, mais c'est
bon.
Fou. Ben c'est bon, c'est fou tous ces grands intellectuels qui sont assis dans ce lieu. Louis Aragon, Pablo Picasso, Neymar.
C'est ça. Des philosophes.
Ben oui, c'est l'endroit préféré de Neymar ici. Il vient ici juste après ses entraînements à l'hôpital Hôtel Dieu, juste à côté. Et je sais qu'il a deux, trois ans, on a les toilettes des Deux Magots aussi, mais bon, on n'en parlera pas tout de suite. Vous savez pourquoi ça s'appelle les Deux Magots ici ? Est-ce que vous savez pourquoi ?
Parce que c'était des petites figurines chinoises.
Non, pas du tout. C'est parce que vu le prix du chocolat viennois, pour le payer, t'as intérêt d'avoir volé deux magots.
Non, mais comme vous y allez.
47 euros, voilà, c'est pas vrai. Alors aujourd'hui, c'est la fête. C'est la fête.
Non, c'est pas vrai.
Non, bah, avant, on faisait la plus grosse fête de notre vie quand on gagnait la Coupe du Monde ou quand on libérait la France des méchants Allemands. Mm. Aujourd'hui, on fait la plus grosse fête de notre vie quand on a le droit d'aller manger un jambon beurre dans un bar tabac.
Alors, assez rigolo parce qu'on est à la terrasse des Deux Magots et les gens se prennent en photo comme si c'était
un événement,
sur les réseaux sociaux, ça tweet à tout va.
Mais bien sûr que oui, on vit tellement une époque pourrie qu'on est content d'aller boire un coup sous la pluie entre une plaque de plexiglas, une plante verte entre 20h28 et 20h59.
C'est
magnifique.
C'est vrai.
Et sachez qu'en ouvrant les bars, en plus, on va éradiquer le Covid, Patrick.
Ah bon ?
Oui, parce que Philippe Devilliers, hier, il a annoncé avoir été soigné du Covid par Didier Raoult avec un médicament de fabrication marseillaise, du pastis.
Ah bon, d'accord.
Une vraie histoire, vous avez vu ça, c'est incroyable, tout le monde en parle. Il a pris deux doses et hop, guéri en 3 jours.
Ah, vache.
Ouais, alors,
ça fait
comme
rêver,
je tiens à votre santé, ouais. Tournée générale de Pastis. Allez, hop, pour tout le monde. Il est 8h quand même, 8h36. C'est Patrick Roger qui paye. Ouais. Profitez. C'est médical en plus. Hein.
Oui, ah bon
ouais, c'est,
ah
médical.
Ouais,
c'est médical.
Ah,
c'est médical,
okay,
c'est
okay,
Philippe
okay.
De Villiers. Bon, allez, musique. Là, on passe aux choses sérieuses. C'est la musique officielle de l'Euro.
Ouais.
Musique officielle de l'Euro, Martin
ouais,
Garrix.
Un truc, hein.
Avec U2. Et alors là, je pensais que la plus grande surprise de ma vie serait de découvrir que Cécile de Ménibus était amoureuse de moi depuis le lycée.
Ouais.
Oui, Cécile, vous étiez ma prof d'éducation civique,
oui.
Et non pas sexuelle. Eh bien non, encore plus grosse surprise. Deschamps rappelle Karim Benzema en équipe de France. Une surprise résumée en une chanson.
On se retrouvera.
Ah, il y a un côté
Lalanne.
Romantique dans cette histoire, c'est
bien
fou.
Sûr,
hein.
Mais il avait tout vu, Francis Lalanne, ah, il a toujours raison de toute façon, Francis Lalanne, que ce soit pour le foot ou pour le Covid. En tout cas, en coiffure, il se trempe depuis 60 ans et je peux en parler. Alors voilà, Didier Deschamps sélectionné, Karim Benzema pour l'Euro. Il y en a qu'un que ça emmerde cette sélection, vous savez
ah bon
qui c'est
non
bah, c'est Karim Benzema.
Ah bon, pourquoi?
Ah bah oui, ça l'arrange pas, il avait prévu ses vacances dans un camping 2 étoiles à Sucy-en-Brie.
Ah oui, c'est vrai, il n'y a et pas
oui.
annulé. Hein.
Bah oui, ça fait 5 ans que tous les mois de juin, il est tranquille.
Bah oui, ouais, c'est
il
ça.
Est libre.
Donc plutôt à Miami qu'à Sucy-en-Brie.
On n'a pas les mêmes infos. Il a, du coup, il n'a pas pris l'assurance annulation et hop, 600 euros, hop, terminé. Moi, je suis sûr que Deschamps, il a fait exprès de prendre Benzema pour perdre avec lui.
Ah bon?
Il va dire voilà, on a perdu avec Benzema, alors qu'avec Giroud, on a gagné la Coupe du Monde. Alors, m'emmerdez plus avec Benzema, sinon je prends Valère Germain la prochaine fois. Faites attention. Alors, Deschamps, il va les mettre dans la même chambre.
Moi, je l'embrasse, Valère Germain.
On l'embrasse d'ailleurs parce qu'il parle un peu comme ça.
Arrêtez.
Excusez-moi. Deschamps, il va mettre Giroud et Benzema dans la même chambre. Mmh. Karim va s'occuper de la programmation des films, puisqu'on sait que Benzema, sa grande spécialisée, c'est les vidéos. Samedi soir, il va. Ah bah oui, bah bien sûr que oui. Samedi soir, il va diffuser Pogba dans Christina.
Non.
Dimanche, Rabiot dans Mathilda.
Arrêtez.
Et lundi, Loris dans Varane.
Non, ça suffit.
Non, mais ça va.
Ah, ça va.
Ça va.
Ouais.
Je rigole, c'est Varane dans Loris, excusez-moi.
Non, arrêtez.
Excusez-moi. Non, pardon.
Arrêtez, stop.
Ils vont rester 2 mois sans voir leur femme, il faut bien quand même qu'ils s'occupent.
Oui,
c'est normal.
Ça, ouais.
Voilà. On est tous bisexuels, hein. Patrick, vous me disiez ça juste avant la chronique.
Bien sûr.
C'est
oui.
normal. Alors, ça va bien.
Je crois que c'est le déconfinement et les terrasses.
J'en peux plus.
Février.
Je lâche tout, c'est l'air. J'avais pas senti l'air depuis très longtemps. Alors, c'est vrai que ça va bien se passer entre Deschamps et Benzema, j'en suis sûr, parce qu'ils ont que 2 mois à se supporter tous les deux.
Oui.
Ça va y avoir une entente exceptionnelle dans une ambiance extraordinaire. On est tous partis en vacances avec des gens qu'on n'aimait pas. Hein.
C'est vrai.
Enfin, non, à chaque fois qu'on part en vacances avec des gens qu'on aime bien, à la fin de la semaine, on les déteste.
Aime plus. Voilà,
on
c'est
les
ça.
Déteste.
Voilà.
Au moins, Deschamps et Benzema, ils se détestent direct. Voilà, très bien. Et aujourd'hui, donc, pour finir, c'est la fête. Les gens ont fait le retour de Benzema en se retrouvant dans les bars et les restos. Mais attention, le couvre-feu est toujours là.
Ça, oui.
Le couvre-feu est toujours là, attention.
Ah oui, c'est vrai,
vous avez jusqu'à 21h maintenant pour sortir, c'est bien, on a gagné 2 heures. Comme quand on avait 14 ans, 21h. Sinon, Papa Castex, il va encore nous priver de sortie pendant 2 ans.
Mais non.
Si, 2 ans. Alors, il y a l'heure d'été, il y a l'heure de Castex.
Ouais.
L'heure d'été, tu gagnes 1 heure de soleil.
Ouais.
Avec l'heure de Castex, tu gagnes 2 heures d'alcool. c'est pas la même chose. Et le Premier ministre, qui a d'ailleurs son rond de serviette au de Mago, hein, je sais qu'il est là très souvent.
Ah bon, je savais pas.
Dans les toilettes, lui également. Avec Neymar. Alors, il a tenu à laisser un message aux Français au moment de les déconfiner un peu. On part à Matignon ou pas?
Est-ce qu'on
part?
Allez,
on part à Matignon.
On est ligne directe.
C'est vrai.
Français de Français, le gouvernement vous confirme que ça fait 8 mois que vous me les brisez pour que je rouvre les musées.
Ouais,
aujourd'hui,
vrai.
Ils sont ouverts et qu'est-ce que vous faites? À 8h du matin, vous bourrez la gueule, bande d'ivrognes.
Eh oui, bah, il a raison. Hein, voilà.
C'est vrai, c'est pas faux. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, moi, bien entendu.
Évidemment. Patrick, qu'est-ce qu'il y a dans votre verre, s'il vous plaît?
De l'eau. Hein.
Oui, bien sûr.
C'est très sobre.
Je connais la technique,
ouais.
Hein, la cristalline, on met de la vodka dedans.
Oui,
voilà,
absolument. Je
le meilleur de Sud Radio. Micha Agar.
Cédric Cizère que vous retrouvez à partir de lundi sur Sud Radio. Dans quelques instants, les vraies voix et puis également Berkoff dans tous ses états. Alors surtout, ne bougez pas.
Merci d'écouter Sud Radio.
Je suis sur Internet et franchement, je trouve que c'est la meilleure radio que j'ai jamais entendue.
Sud Radio, parlons vrai. Le meilleur de Sud Radio. Micha Agar.
Bon samedi matin, à l'écoute de Sud Radio, c'est le meilleur de Sud Radio. La suite, c'est avec Valérie Expert et les débats. Un petit extrait de cette semaine. On aura également un petit moment humour avec Walter. Mais d'abord, un petit tour du côté des vraies voix qui sont là tous les soirs de 17h à 20h sur Sud Radio avec différents débats. Et puis cette semaine, un des sujets qui s'est vraiment invité dans l'actualité, c'est la justice et les policiers. On écoute tout de suite les vraies voix en débattre.
Le meilleur de Sud Radio, ça s'est passé cette semaine.
La justice est-elle laxiste? La justice libère-t-elle les délinquants? La justice fait-elle tout pour échapper et éviter de nous mettre en prison lorsqu'on pourrait y aller? C'est la question que nous nous posons avec notre invitée, Béatrice Brugère. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Secrétaire générale du syndicat Unité Magistrat, Force Ouvrière. La justice fait-elle tout pour éviter, nous faire éviter, échapper à la question? Vous nous écoutez sur Sud Radio, vous nous appelez 0826 300 300, vous votez sur le Twitter de Sud Radio. Nous avons un garde des Sceaux qui s'appelle Éric Dupond-Moretti qui dit qu'il est le ministre des détenus et des surveillants pénitentiaires. Est-ce qu'on peut encore, on a encore un risque d'aller en prison aujourd'hui ou pas, Béatrice Brugère? Lorsqu'on
oui.
est condamné.
Oui, bien sûr. Mais alors, c'est intéressant la manière dont vous avez posé la question. La justice fait-elle tout pour éviter d'aller en prison? C'est un petit peu ce qu'on entend, en effet, dans le débat public, puisque la justice est régulièrement mise en accusation dans le débat public comme étant laxiste. Et dans le débat de la sécurité qui est tout à fait contemporain, puisque je rappelle que demain, d'ailleurs, il y aura une grande manifestation, nous sommes montrés du doigt comme étant un peu une des causes de cette insécurité, puisque on ne mettrait pas assez les personnes en prison. En réalité, la question qui est extrêmement importante, je crois, est assez mal posée, si je puis me permettre, c'est pas la vôtre, mais dans la mesure où on nous enferme tout de suite dans une dialectique répressive laxiste. Je pense qu'il faut sortir de cette dialectique et comprendre que c'est plus compliqué que ça. Ça veut pas dire qu'il faut pas en parler, au contraire, il faut en parler parce que c'est un débat qui intéresse tous les citoyens et il faut surtout pas se cacher derrière un discours technique qui dirait mais vous comprenez rien, vous savez, nous les juges, mais voilà, je peux pas vous expliquer. Non, il faut pas se cacher derrière ce débat technique.
Revenons sur les faits, Béatrice Brugère. Vous rendez une note sur l'exécution des peines. Vous relevez plusieurs chiffres qui sont absolument édifiants. C'est-à-dire que vous expliquez d'une part 130 000 peines, peu ou prou, plus ou moins, qui sont prononcées chaque année. Pourtant, vous expliquez que à l'année où vous avez les chiffres, 37 000 détenus sont en prison. Comment vous expliquez 37 000 de ceux-là sont en prison? Comment vous expliquez que ce soit quoi? Un tiers seulement des condamnés qui se retrouvent en prison, ils sont où les autres?
Alors d'abord, dans l'imaginaire collectif, punir, c'est mettre en prison. Et c'est ça qu'il faut expliquer, c'est qu'aujourd'hui, la loi, qui est très active, et la politique pénale, depuis plusieurs années, tend à faire que la prison ne soit plus la peine de référence.
Et pourtant, on parle c'est de peine que... prononcée de prison, c'est ce que
Exactement.
Vous relevez vous-même, 130 000 peines de
prison. Et je vais vous expliquer
prison.
Pourquoi. Parce qu'en fait, toutes les lois, et on en a une qui est très récente, puisqu'on vient d'en voter une, et on va en voter une autre la semaine prochaine, en ce moment c'est en débat, qui est la loi sur la confiance sur la justice, encadre l'activité des magistrats pour que, un, ils ne prononcent quasiment plus de peine de prison, et quand ils en prononcent une, c'est ça qu'il faut comprendre, que cette peine soit aménagée sur une autre peine. Et quand les personnes vont en prison, tout le dispositif législatif et la politique pénale est mis en place pour qu'on libère au plus vite les personnes qui viennent en prison. Je vais m'expliquer si vous voulez. Voilà. Ce qui explique le différentiel de votre chiffre entre les peines de prison qui sont prononcées et celles qui sont exécutées. Pourquoi ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, on est arrivé à la fin d'un processus où quand on prononce une peine de prison, il faut quasiment le plus souvent possible, l'aménager. Il faut d'abord surtout ne pas trop...
On la transforme,
trop...
on verra ça Exactement. Avec vous d'ailleurs. Comment on transforme alors l'aménagement d'une peine, comment on la transforme? On remplace la prison par quoi? On va le voir dans un instant, Philippe Bidger.
Mais je voudrais juste, dire deux petites choses qui sont importantes sur le chiffre, parce que les chiffres, c'est important, ça marque les esprits. Il faut aussi que dans ce chiffre, on prenne en compte deux choses. Un, les délais d'exécution qui font que ces peines ne sont pas exécutées parce que la justice est miséreuse et qu'on a un problème de moyens. Et ça, c'est une réalité. Derrière, il ne faut pas se cacher, mais il faut dire les choses. Voilà. Donc, le délai d'exécution fait que ces peines de prison ne sont pas non plus mises à exécution, et on en reparlera. Et deuxièmement, il y a aussi une politique d'inexécution des peines. Et là-dessus, les chiffres sont relativement flous.
Quelle serait la Béatrice, puisqu'on se connaît, quelle serait la réforme la plus efficace pour faire se rejoindre les peines théoriques, les peines prononcées et les peines exécutées?
En réalité, votre question, elle touche pas que la prison. Vous avez raison de la poser de façon générale, puisque quand on regarde les chiffres, la première peine, et c'est contre-intuitif, qui est prononcée, c'est la peine d'amende. Or, l'inexécution des peines d'amende est extrêmement importante.
En d'autres termes, on condamne des gens à payer des amendes, ils ne les payent pas.
Exactement. Voilà. Donc, on a quand même, et vous avez tout à fait raison, un écart entre un travail qui est réel, il faut le dire, les magistrats n'arrêtent pas de travailler, on ne peut pas dire qu'ils ne font rien, et la mise à exécution de ces peines. Alors, vous me dites quelle est la solution. Je pense que la solution, elle est pas unique, elle est complexe. Je pense qu'il y a un problème de culture aussi. Nous sommes des sociétés un peu bureaucratiques. Et puis, il y a aussi un problème qui est presque de l'ordre intellectuel, c'est-à-dire qu'on n'a pas non plus le souci du résultat et de l'efficacité.
Le meilleur de Sud Radio. Micha Agar.
Les vraies voix que vous retrouverez dès lundi à partir de 17h sur Sud Radio. On continue ce meilleur de Sud Radio avec un retour sur le Grand Matin Sud Radio. Mercredi matin, nous étions en direct de la terrasse des Deux Magots à l'occasion de la réouverture des terrasses et Patrick Roger, Cécile de Minibus recevaient Raphaël Entoven.
Le meilleur de Sud Radio, ça s'est passé cette semaine.
Oui, c'est une version contemporaine, c'est ça, revisitée, réadaptée de l'école des femmes.
C'est ça, c'est une version réadaptée de l'école des femmes.
Oui, on va en parler dans un instant, mais elle est actuelle quand même avec les mots de l'époque, c'est cru. Je laisserai Cécile vous citer quelques passages assez cash. Et c'est peut-être aussi un miroir de la société, c'est ça, non? Avec c'est-à-dire j'ai trouvé une forme de revanche en fait des femmes qui prennent le pouvoir. Et puis de la vieillesse également, non ?
C'est le grand paradoxe de Molière. Dans l'école des femmes, Molière est à la fois misogyne et féministe. Il est le porte-parole du mari trompé, du mari cocu, de l'homme qui trouve que rien ne va, ma bonne dame. Et il est aussi celui qui met dans la bouche de jeunes femmes des paroles libératoires extraordinaires et dont il est extraordinaire de penser qu'elles ont été écrites au XVIIe. Donc moi, c'est à ce double sillage que je rends hommage dans ma petite parodie, en mettant en scène des personnages qui ont le même âge, mais dont le rapport de force est évidemment inversé. Dans l'école des femmes, Arnolf contrôle, gouverne, maîtrise Agnès tant qu'il peut, avant d'être débordé par l'amour. Et dans l'école des dames, c'est Jeanne évidemment qui a le tiers de l'âge de Colin, mais c'est elle qui...
Elle tient la rampe quand même.
C'est elle qui tient le chapeau, qui porte la culotte, dites-le comme vous voulez. Ouais. Mais enfin, c'est elle qui décide, si vous voulez. Et c'est ça qui est intéressant parce qu'il est quand même son geôlier et son impresario.
Il essaye de la nihiler, mais il a du mal. Hein.
Bah, il essaie de la garder sous sa coupe, c'est-à-dire que celui qui au départ voulait lui donner sa chance et celui qui soudain se désole qu'elle ait plus de succès que lui. C'est normal, c'est tellement humain.
C'est à la lecture un peu de l'évolution de notre société que vous l'avez écrit.
J'en sais rien.
D'où est venue cette idée?
L'idée m'est venue du fait que j'adore Molière, que j'adore cette pièce et que j'ai toujours aimé écrire en alexandrin. Et que ça m'a toujours amusé, je trouve cette contrainte merveilleuse. Et donc j'avais, j'ai honte de le dire, mais j'avais, vous savez, pendant les périodes de confinement, on le sait maintenant.
Un peu plus de temps.
Les écrivains sont chefs de gare, si vous voulez. La plupart du temps, ils ont l'impression d'être tombés du train. Et puis soudain, quand tout s'arrête, on devient chef de gare. Et donc, j'ai passé quelques semaines tout à fait silencieuses à pouvoir faire ce travail et respecter la versification. Alors, à la virgule.
Ce qui est incroyable, c'est qu'effectivement, c'est un langage contemporain. Est-ce que ça peut réconcilier cette jeunesse qui ne lit plus, enfin, qui ne lisait plus les grands auteurs et qui, du coup, grâce à l'École des Dames, pourrait se dire, tiens, je vais quand même aller voir l'École des femmes.
Ce serait une vertu collatérale du tout. Serais enchanté que ce soit le cas. Ce qui est vrai, c'est que j'ai écrit ce texte avec le double outil des mots que nous employons tous les jours, vous, moi, les mots quotidiens, les mots de la vie.
Pas tous, on les utilise pas tous les jours. Il y en a certains.
Sodomie, cunilingus, tout ça, Patrick. Ne me dites pas que vous ne dites pas ça tous les jours. Alors,
le bout de ma tam tam, naturellement. Le bout de ma tam tam.
Zizi,
mon dieu, il a dit zizi. Je l'ai fait rimer avec des chaussées.
En revanche, pardon de vous le dire. Vous le dites, l'habite en quarantaine quand même. Je dis rien.
Pardon. Le texte exact est « J'ai 65 ans et j'ai mauvaise haleine, j'ai les muscles tout mous, l'habite en quarantaine, et j'incarne un vieillard qui, pour combler le temps, séquestre une gamine qui n'a pas 20 ans. »
Le meilleur de Sud Radio. Micha Agar.
Le Grand Matin Sud Radio que vous retrouverez à partir de lundi avec Benjamin Glaise et puis à partir de mardi, c'est le retour de Patrick Roger et Cécile de Minibus. Ils sont en week-end prolongé et c'est bien mérité. Dans quelques instants, Valérie Expert, également André Bercoff, c'est dans quelques instants sur Sud Radio.
Le meilleur de Sud Radio. Micha Agar.
Bon samedi matin, bon réveil. Vous êtes avec le meilleur de Sud Radio. Dans quelques instants, Valérie Expert ou encore Berkoff dans le meilleur de Sud Radio. Puis on l'a découvert il y a 3 ans avec son premier album. Il revient avec un deuxième opus où il raconte sa différence. Le premier extrait, c'est Bateau Mouche. C'est tout de suite Eddie de Préto sur Sud Radio.
Quand j'étais gars trop moche, chantant sur Bateau Mouche, avec un dans les poches, faisais moins la fine bouche. Je prenais toutes les avances, de sourire pas très cash. Fallait bien que je mange pour apaiser ma soif. Triplet et dessert, je reculais l'attente. Des gros ventres à remplir avec chansons badantes. Sur mon estrade en toc que je prenais pour scène. Je me sentais comme un coq, mais je flottais que sur la scène. Maquillé au pinceau, un solo pour mariage. Avec costume cello et l'odeur du fromage. Je posais comme il faut, les gens menaient pas large. Je me sentais parfois trop, entre rêve et noyade. J'étais lui qu'on ne voit pas, qui se glisse entre les tables. J'entends du Rihanna avec un accent grave. Qui sourit à chaque fois pour faire plaisir mes. Mesdames, faudrait pas que messieurs se sentent dragués par moi. Quand j'étais personne, plein de petits taffes d'automne, je rêvais d'idoles, je me voyais déjà en haut. Quand j'avais personne qu'une soif qui déborde, je rêvais des tonnes, je me voyais déjà en haut. Et c'était beau, début, 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 beau. Je découvrais Paris,
comme découvre l'étranger.
Viens d'où il fait gris,
où on laisse tout trop laid.
Les monuments crarés,
emportés comme jamais.
Je n'avais qu'une envie,
m'installer sur ce pavé,
à chanter toute ma vie.
Pas les chansons des autres,
j'en avais dans le vent.
Pas du saumon le nôtre,
j'attendais patiemment.
Monter sur le trône,
qu'on reprenne mes chansons.
Comme je reprends vie en rose.
Quand j'étais personne, plein de petits taffes d'automne, je rêvais d'idoles, je me voyais déjà en haut. Quand j'avais personne qu'une soif qui déborde, je rêvais des tonnes, je me voyais déjà en haut. Et c'était beau, début, 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 beau. J'avais quitté mes Nike et laissé sous le bateau. C'était pas assez classe pour l'image de ce show. Je n'avais qu'une hâte, m'en montrer ce que je vaux. Montrer combien je fake, les gens te le manalo. Le soir je m'improvisais, la vedette du bateau. En maquillant mes souhaits, au parfum du ghetto. Tous les soirs je trinquais, rêve fou de mon ego. En attendant je réglais mes grands rêves au chapeau. Quand j'étais personne, plein de petits taffes d'automne, je rêvais d'idole, je me voyais déjà en haut. Quand j'avais personne qu'une soif qui déborde, je rêvais des tonnes, je me voyais déjà en haut. Et c'était beau, début, 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 beau. Début, 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 beau. Début, 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 beau. Début, début, début. Quand j'étais gars trop moche, chantant sur Bateau Mouche, avec un dans les poches, faisais moins la fine bouche. Je prenais toutes les avances, de sourire pas très cash. Fallait bien que je mange pour apaiser ma soif.
Eddie de Préto, Bateau Mouche, avec un retour sur scène qui est attendu, avec une tournée dans toute la France qui est prévue pour début octobre. On continue avec le meilleur de Sud Radio, avec Valérie Expert, les débats qui ont lieu tous les matins de 10h à midi, c'est dans quelques instants. Mais d'abord, cette semaine, c'était André Berkoff qui était en vacances, donc Arthur Delaborde remplaçait André Berkoff dans Berkoff dans tous ses états. Et cette semaine, il recevait Laetitia Krupa pour La Tentation du Clown, un candidat hors système. C'est un livre qu'elle vient de sortir.
Le meilleur de Sud Radio, ça s'est passé cette semaine.
Qu'est-ce qu'un candidat hors système finalement? Parce que Emmanuel Macron, en 2017, il a quand même fait exploser les deux partis principaux à l'époque, le Parti Socialiste et les Républicains, ou l'UMP. On a aussi des personnalités comme Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen qui... là se revendique carrément d'une candidature hors système.
Oui, bien sûr. Alors, en fait, le candidat hors système n'est pas par définition politique. C'est-à-dire qu'il n'a pas de carrière politique, ce n'est pas un professionnel de la politique. Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon sont bien sûr sur ce credo-là parce qu'ils veulent capter les électeurs en colère. C'est leur objectif, c'est leur stratégie de communication. Donc évidemment qu'ils se revendiquent du hors-système, mais ils sont des produits purs du système politique. Elle, par son hérédité déjà, et par le fait que ça fait des dizaines d'années qu'elle est dans le monde politique, qu'elle vit de la politique, de la même façon pour Jean-Luc Mélenchon. Mmh. Donc si vous voulez, bien sûr qu'on sait que ces extrêmes captent les votes des contestataires, on va dire, pour un peu caricaturer, mais ils sont le politique. C'est l'essence même du politique. Emmanuel Macron, lui aussi, a pris ce credo. Finalement, il a piquer un peu le dégagisme de Jean-Luc Mélenchon, et c'est lui qui a remporté la mise avec ce credo-là, mais c'est vrai qu'il arrivait un peu de nulle part, mais il était quand même passé par l'Élysée, il était quand même ministre de l'économie sous François Hollande, donc c'était un homme politique, bien que jeune, donc forcément sa carrière politique est plus courte que les autres, et puis regardez les Gilets jaunes, ça a complètement ringardisé cette petite casquette hors système qu'il s'était mise sur la tête. Et Emmanuel Macron apparaît aujourd'hui comme le chantre du système, comme l'émanation, comme l'illustration parfaite du système politique. Donc aujourd'hui, oui, cet espace existe plus que jamais.
C'était une illusion, en fait, Emmanuel Macron, du hors-système. Alors comment vous expliquez que tous ces hors-système, ces clowns, finalement, ils réunissent plutôt à droite ?
Pour l'instant, parce que, si vous voulez, ce livre, c'est une enquête. Donc, je suis allée voir 50 experts dans leur domaine, des sociologues, des politologues, des sondeurs, des hommes politiques, des conseillers, des journalistes, des hommes de télévision, des femmes de télévision. Et c'est, de tous les entretiens que j'ai menés, une des conclusions, c'est-à-dire que l'électorat, en tout cas ceux pour l'instant qui vont voter, s'est un peu déporté à droite ces dernières années.
Mais comment vous l'expliquez ?
Et qu'un espace s'est creusé, alors parce que la gauche est atone, parce que la gauche n'a aucune incarnation à part Jean-Luc Mélenchon, qui peut-être a fait son temps, que le PS est complètement orphelin, le PS n'existe plus, le PS est mort, enfin je veux dire, c'est aujourd'hui un électeur de gauche, socialiste, d'ailleurs quand on regarde les enquêtes d'opinion, ils sont davantage favorables à une future élection d'Emmanuel Macron que ne sont les électeurs de droite. Et ça, on ne le dit pas assez. C'est-à-dire que, comme ils sont orphelins, ils se sont rattachés au wagon Emmanuel Macron. Donc, comme la gauche est complètement disparate et explosée, n'existe plus, à part, encore une fois, Jean-Luc Mélenchon, à droite, c'est davantage structuré. Et il y a aussi tout un sillon idéologique, médiatique, qui est creusé depuis quelques mois, quelques années, à droite.
Parce que justement, là, ce ne sont pas les LR, les clowns. Donc c'est la droite, mais pas la droite du système.
Non, bien sûr. Non, évidemment. Vraiment, l'enquête, c'est vraiment le début de l'enquête. C'est-à-dire que je vais aller chercher les écuries apolitiques, les écuries qui ne sont pas des politiques, les écuries citoyennes. Et pas plus tard que ce matin sur Twitter, il y a une personne qui m'a répondu en disant qu'effectivement, ils étaient en train de s'organiser, ils étaient en agora citoyenne, en train d'organiser une proposition de gouvernement et en train de réfléchir à qui pourrait se présenter en tant que citoyen à l'élection 2022. Donc vous voyez, c'est concret, c'est-à-dire que le fruit de mon enquête, c'est le fruit de multiples recherches, encore une fois, sociologiques, politiques, qui montrent qu'on en est arrivé à ce temps-là de notre temps politique.
Oui, c'est avant tout un livre sur la crise de la représentativité démocratique. Et vous êtes très critique envers les médias en particulier. Vous dites que les médias traditionnels, les médias de masse, ont été quelque part pénétrés par les réseaux sociaux.
Oui, en fait, les médias ont été complètement paniqués, même, je vais vous dire, par la révolution numérique. Je suis dans la télévision depuis 20 ans et dans la radio, donc je le sais. Je les ai vus arriver, moi aussi, les réseaux. Et les médias traditionnels n'ont pas suggéré cette arrivée-là. Donc, comme souvent avec une révolution et avec des nouvelles technologies, on se raccroche. Et puis on essaye de... En fait, on est plus suiveur finalement, on fait de la copie, et quand on copie, en général, c'est moins bon que l'original. Et les médias sont un peu paniqués, oui, par cette révolution numérique qui les submerge, par un public qu'ils n'arrivent plus à capter. Qu'on dit davantage jeunes, et c'est vrai, hein, dans les enquêtes d'opinion, et c'est vrai que ce sont les jeunes qui ne sont plus captifs des médias traditionnels. Du coup, que fait-on, journaliste, vieux journaliste old school? Eh ben, on reprend toutes les recettes des réseaux sociaux et du numérique, sauf que ça marche pas. Sauf que l'espace est peut-être pas fait pour ça, et que l'espace est suffisamment large. Je pense qu'en fait, il y a une souplesse de l'espace médiatique où tout le monde peut exister, et il ne faut absolument pas que les digues se fissurent. Or, les digues se sont fissurées. On a tout mélangé. On mélange tout. On mélange le politique, le people depuis des années, depuis Berlusconi en Italie, qui a complètement débordé en France. Mais aujourd'hui, on met sur le même plan tout le monde. Or, tout ne se vaut pas, non. Et si l'égalité, c'est tout se vaut, moi je dis non. L'égalitarisme n'est pas forcément un bienfait pour la démocratie. Tout ne se vaut pas. Un ministre n'équivaut pas une citoyenne lambda. Ce n'est pas vrai. Pourquoi ? Parce que dans la fonction qu'il occupe dans la société, ce ne sont pas les mêmes, c'est tout. Or, les médias ont tendance un peu à courir après aussi le chaland, l'audience, et se dire, il faut absolument flatter le téléspectateur, le spectateur, l'auditeur, donc on va le mettre au même niveau que le ministre. Ben non, mais c'est une erreur. C'est une erreur parce que c'est faux. Et donc, là, on crée un monde, un peu le monde de la société, ce que j'explique dans le bouquin, du selfie, où finalement, je vais faire mon selfie avec le politique, et puis je vais être au même plan sur la photo. C'est une erreur, voilà, de jugement.
Le meilleur de Sud Radio. Micha Agar.
Arthur Delamorde qui remplaçait André Bercoff cette semaine dans Le Meilleur de Sud Radio. André Bercoff que vous retrouverez à partir de mardi. Il sera de retour de ses vacances bien méritées sur l'antenne de Sud Radio. On continue et un petit tour sur le 10h midi avec, comme chaque semaine, un coup de gueule des débatteurs de Valérie Expert. C'est tout de suite dans Le Meilleur de Sud Radio.
Le Meilleur de Sud Radio, ça s'est passé cette semaine.
Commençons par ce qui a retenu votre attention aux uns, aux autres. Jérôme, commençons avec une note joyeuse.
Légère. Oui, parce que je me suis interrogé sur le sujet qui devait être mon coup de gueule ou de cœur. Et j'ai fait un coup de cœur, qui pour certains aurait pu être un coup de gueule. Le Premier ministre va prendre le successeur du train bleu, celui qui va à Nice, puisqu'on relance les trains de nuit, et jeudi, donc ce soir, il partira dans le Paris-Nice d'Austerlitz pour s'en rendre à Nice, et on se dit, bah, tiens, voilà le dernier coup de com' pour du Premier ministre, et je tenais à porter, une fois n'est pas coutume, mon témoignage. Bon, qui aime bien châtie bien, et je pense que dans l'émission, je prends souvent des positions très différentes de celles du gouvernement, mais il se trouve que Jean Castex est quelqu'un que je connais très bien, et avec qui j'ai partagé plusieurs fois des voyages en train de nuit, puisqu'il est originaire de Perpignan.
Dans le même compartiment couché.
Dans le même compartiment, s'il vous plaît, oui, voilà, parce qu'il est des fois où Air France ne remplit pas son office et où donc on a eu à faire des trajets. Donc c'est quelqu'un qui, effectivement, a une passion pour le train, est un passionné, qui a vu les trains de nuit, les intercités fermés les uns après les autres, et d'ailleurs celui qu'on prenait qui était le Paris-Perpignan pour vous a fermé en décembre 2016. Et donc c'est au-delà du coup de com', c'est quelque chose qui lui correspond, voilà. Donc c'était amusant. Après, est-ce que les trains de nuit ont une véritable utilité en France? Ça c'est une vraie question. J'ai lu qu'ils allaient coûter 26 millions d'euros de déficit. Est-ce que c'est la mesure symbolique du plan de relance? Peut-être pas, mais en tout cas, sur la méthode, sachez que ce n'est pas qu'un coup de com', ça correspond aussi à ce qu'est le Premier ministre, c'est-à-dire une personne assez simple qui sait fréquenter les cabines assez rigides de la SNCF, des intercités. Ouais.
Mais aussi un coup de com'. Parce qu'on n'est pas obligé de le dire.
Ah, bah oui, ça, évidemment. Oui, ça, c'est
une... Non, Arnaud, le coup bien de com' sûr. Permanent. Arnaud Benedetti, vous en pensez quoi?
Mais si c'est un coup de communication qui correspond à son mode d'existence, c'est-à-dire c'est péché à moitié pardonné.
Oui, absolument. Le train de nuit donc qui redémarre, c'est déjà ça. On peut effectivement, c'est à la fois un coup de cœur donc pour Jean Castex pour ses trains de nuit. Arnaud, vous, c'est un coup de gueule?
Oui, alors, c'est un coup de gueule. Enfin, c'est un constat, c'est que j'ai découvert que la Cour des comptes n'avait pas été en mesure de certifier les comptes sociaux. Ça vient d'être annoncé il y a, je crois, quelques jours. Donc, quand on regarde dans le détail, j'ai regardé un peu dans le détail. Bon, alors, il y a bien évidemment des difficultés à certifier les comptes parce que le régime des indépendants a été particulièrement bousculé par la crise sanitaire. Mais quand on regarde d'autres branches, notamment par exemple la branche famille, la Cour des comptes relève que 10% des prestations de la CAF sont erronées. Donc les erreurs de prestation sont les plus nombreuses dans cette branche. C'est quand même assez intéressant. Ce qui va nous coûter à peu près, quand on regarde ce qu'annonce la Cour des comptes, près de 8 milliards d'euros. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, la Cour des comptes n'est pas en mesure de certifier si le déficit est de 35 ou 38 milliards d'euros. Un certain nombre de spécialistes disent que l'épaisseur du trait pourrait être montée de 15 milliards d'euros supplémentaires. Donc je trouve ça quand même assez incroyable sur le fond. Ça prouve que c'est un sujet qui est passé complètement sous les radars, hein, complètement. Mmh. Mais enfin, il n'en demeure pas moins que ça crée une tension, me semble-t-il, supplémentaire sur les finances publiques, et que ça ne nous fait que confirmer sur le fait que nous sommes finalement assis sur une bombe à retardement.
Erroné, j'ai une question. Erroné, ça veut dire falsifié ? Est-ce que ça veut dire que quand les comptes sont erronés, ça veut dire qu'ils sont… C'est quoi ? C'est des erreurs comptables ?
Là, c'est des erreurs. C'est-à-dire
d'accord,
qu'en plus,
ça n'est pas de la fraude. Hein.
Ça ne prend pas en compte la question de la fraude sociale, voilà. N'est pas prise en compte, en l'occurrence. Ah,
ce qui est un facteur aggravant.
Ça relève d'un certain nombre d'erreurs qui ont été commises.
C'est plutôt inquiétant et très ennuyeux. Aurélien Véron, ça va peut-être un petit peu dans ce sens, votre coup de gueule ou votre coup de cœur, c'est selon.
Alors moi j'ai un coup de cœur pour l'initiative de Gaspard Koenig, qui est un écrivain et philosophe de la liberté et qui a repris un thème ancien, puisque tout le monde se rappelle de la formule du président Pompidou: arrêtez d'emmerder les Français. Depuis cette époque, l'inflation normative, réglementaire, n'a cessé non seulement d'avancer, mais en plus elle a explosé. Et donc aujourd'hui, le quotidien des familles, le quotidien des petites PME, le quotidien des artisans devient insupportable à cause d'un ensemble de normes et de règles qui sont souvent basées sur des principes plutôt sains, mais qui deviennent une usine à gaz systématique pour le quotidien des gens. Et donc il a lancé vieplussimple.fr. Vieplussimple.fr, c'est une manière de recenser par le bas, c'est-à-dire les citoyens comme vous et moi pouvons aller sur ce site et juste recenser, énumérer des règlements, des normes qui nous pourrissent le quotidien.
Le meilleur de Sud Radio, Micha Agar.
Le 10h midi, débat que vous retrouverez lundi, animé par Christine Bouillot, et puis mardi avec Valérie Expert, qui sera de retour de ce week-end prolongé de la Pentecôte. Et la suite sur Sud Radio, c'est dans quelques instants. Rendez-vous humour avec Walter sur Sud Radio.
Le meilleur de Sud Radio, Micha Agar.
C'est le meilleur de Sud Radio. Dans moins d'un quart d'heure, c'est Laurence Garcia qui viendra nous rejoindre pour le grand matin week-end. Et on va continuer ensemble en musique avec un petit tour dans les années 70, 1975 pour être précis, avec Nino Ferrer. Voici Le Sud sur Sud Radio.
C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane, à l'Italie. Il y a du linge étendu sur la terrasse, et c'est joli. On dirait le sud. Le temps dure longtemps, et la vie sûrement d'un million d'années. Et toujours en été,
a plein d'enfants qui se roulent sur la pelouse. Il y a plein de chiens. Il y a même un chat, une tortue, des poissons rouges. Il ne manque rien. On dirait le sud. Le temps dure longtemps. Et la vie sûrement. Plus d'un million d'années. Et toujours en été.
Et ce titre qui traverse vraiment les époques avec toujours autant de nostalgie, c'était Le Sud sur Sud Radio. Dans quelques instants, le grand matin week-end avec Philippe David. Mais avant ça, un petit tour sur le grand matin Sud Radio de Patrick Roger et Cécile de Midibus. Et comme tous les jeudis à 8h35, c'est le rendez-vous humour avec notre Belge préféré. Voici Walter sur Sud Radio.
Le meilleur de Sud Radio, ça s'est passé cette semaine. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Juste avant Walter, c'est le rappel des titres avec Charlotte Derouin.
Le début aujourd'hui d'un nouveau procès pour Nicolas Sarkozy. L'ex-président est jugé dans l'affaire Big Malion pour les dépenses excessives de sa campagne présidentielle de 2012. Les audiences auraient dû commencer le 17 mars, mais elles avaient dû être ajournées en raison de l'hospitalisation de l'avocat d'un des prévenus. Des milliers de policiers ont manifesté hier devant l'Assemblée nationale. Ils dénonçaient le laxisme de la part des magistrats à l'encontre de ceux qui agressent les forces de l'ordre. Le retour du train de nuit entre Paris et Nice, des intercités couchettes, premier départ prévu ce soir de la gare d'Auster avec à bord Jean Castex. L'occasion pour le Premier ministre de parler et de désenclaver les territoires. Les tarifs de l'électricité d'EDF s'envolent, une augmentation de 50% en 10 ans. C'est ce que dénonce l'UFC Que Choisir aujourd'hui. L'association de consommateurs pointe du doigt le mécanisme qui oblige EDF à vendre à bas prix à ses concurrents une partie de son électricité nucléaire. Et de 14, le PSG a remporté sa 14e Coupe de France hier. Victoire 2-0 face à Monaco. Un match marqué par la belle performance de Kylian Mbappé, passeur sur le premier but et auteur du second.
Merci beaucoup Charlotte.
Et c'est Walter qui est avec nous. Bonjour Walter.
Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. La France est déconfinée depuis hier, en tout cas toutes sortes de choses ont repris, notamment les deux activités préférées des Français, faire des manifs et boire de l'alcool.
Oui, oh. Vous voulez revenir sur ce rassemblement des policiers hier, c'est ça?
Oui, grosse manif de soutien à la police. Ils étaient 35 000 manifestants selon les organisateurs et 12 millions selon la police. Mais revenons à l'alcool. Ah, les Parisiens sont chauds comme des baraques à frites à l'idée d'aller enfin boire un verre en terrasse. Je suis content pour eux.
Oui.
Même si, très honnêtement, je trouve un peu surfait l'idée de boire du vin au milieu des moteurs diesel.
Oui.
Vin diesel, c'est d'ailleurs le nom d'un acteur, hein, l'acteur Vin diesel, drôle de nom. Moi, en tout cas, la première fois que j'ai vu ça sur une affiche, je me suis dit, Vin diesel, jamais je ne boirai un truc pareil. Et puis, on va se rappeler du prix quand même, des boissons dans les bars parisiens. 14 euros un cocktail avec 4 centilitres d'alcool dedans. J'irai pas jusqu'à dire que c'est la pire arnaque depuis Camélia Jordana, mais c'est cher. C'est cher. Alors, ok, pour certains, 4 centilitres, c'est beaucoup. Hein, Cécile, un demi-morito, elle danse sur la table en chantant les lacs du Connemara. Moi, il m'en faut au moins 3 ou 4 pour ressentir les premiers effets. Bonjour le budget. Au moins, pendant le confinement, on buvait chez soi et on dormait très bien après 2 bonnes bouteilles de Bordeaux à 7,50 €.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
Oui, et puis n'oublions pas que les terrasses, exactement, Cécile, vont fermer très tôt car le couvre-feu est à 21h. On risque de devenir des Anglais. On va se bourrer la gueule à toute vitesse en après-midi et les gens vont se mettre à gerber dans le métro à 20h. Avant, ça s'était réservé au samedi soir à minuit, personne ne voyait. Là, ça va quand même être un peu relou pour les pauvres gens qui rentrent de la Défense avec des éclaboussures de vomi sur leur mallette en simili-cuir. Je dis ça, je ne dis rien.
Mais non.
Et puis les terrasses seront ouvertes, mais seulement en partie. Hein. Voilà, ça va être la guerre pour pouvoir s'asseoir. Avant, pour draguer une fille dans un bar, fallait être cool, faire preuve d'esprit, un joli petit compliment. Là, il suffira de dire « Salut, j'ai une chaise ». Vous voyez ?
Ouais, c'est ça. Bah, on va pouvoir retourner faire du shopping en plus, Walter, aujourd'hui. Ça va être possible.
Oui, c'est vrai. Les couples vont enfin pouvoir à nouveau tester la solidité de leur relation amoureuse tous les samedis après-midi dans des centres commerciaux bondés, voire dans les allées d'un célèbre fabricant de meubles suédois.
Ouais.
On va enfin acheter en présentiel. Non seulement au niveau shopping, tout le monde va être confortable. Le seul qui râle un peu, c'est le patron d'Amazon, Jeff Bezos. Parce que lui, forcément, il va être un tout petit peu moins riche. Sa fortune personnelle va passer du PIB de l'Allemagne au PIB de l'Autriche. Et sinon, les cinémas vont rouvrir également. Avec le couvre-feu à 21h, il y aura juste la séance de midi, la séance de 2h, la séance de 5h. C'est ce qu'on appelle les séances pour les vieux.
Oh, hein.
À mon avis, ça va plutôt être des films avec Fabrice Luchini qui joue un prof de lettres, plutôt que Fast and Furious 28. Avec Vin Diesel, qui, je le rappelle, est un acteur et pas un cocktail bien dégueulasse. Ah ouais, ouais mais non, c'est 2h, midi, 2h, 5h, Macron sait très bien ce qu'il fait. C'est un cadeau pour son électorat de retraité, ainsi que pour sa femme.
Mais non, voilà. Arrêtez, ça suffit. Et les cinémas et les théâtres aussi, alors?
Oui, les théâtres aussi, c'est si autre bonne nouvelle pour les vieux.
Ouais.
Parce que je le rappelle, enfin je le précise, pour ceux qui se plaignent, il n'y a que les vieux qui vont au théâtre, je trouve ça très bien. Il faut être honnête, hein, quand quelqu'un de moins de 55 ans te dit « je vais au théâtre », c'est généralement qu'il est comédien et qu'il joue dans la pièce de théâtre. Même si on peut voir des acteurs de théâtre en allant boire des cocktails, vu que ce sont eux qui servent les cocktails à 14 euros, ce qui nous rappelle la fameuse plaisanterie « ah salut, je suis actrice, ah ouais, dans quel bar ?»
Ah non.
Je dis juste.
Oui.
Allez-y. Faisons attention, parce qu'on risque d'être déçu assez vite après avoir retrouvé notre liberté. Il y avait un petit côté prohibition, vous voyez, et quand quelque chose est défendu, t'as envie de le faire. Moi, si c'était interdit de manger des brocolis et de boire du Perrier, je réussirais enfin à faire régime. Hein ? Et à l'inverse, quand on peut enfin faire ce qu'on veut, ça perd un peu de son sel.
Bah oui.
Lorsqu'on a dépénalisé l'homosexualité, je suis sûr qu'il y a plein de gays qui se sont dit « Ouais, finalement, les roubignoles, c'est surfait.
»
Bref, je souhaite à nos auditeurs de faire ce qui leur plaît, de profiter du confinement et de ce qui leur a manqué pendant cette année un petit peu hors du temps. Espérons vraiment qu'une autre pandémie ne va pas repartir sous prétexte qu'un Chinois a bouffé un animal qui ressemble à une veste de Florent Pagny. Bonne semaine à tous.
Merci beaucoup, Walter.
Le meilleur de Sud Radio. Micha Agar.
Walter, que vous retrouverez jeudi matin dans le Grand Matin avec Patrick Roger et Cécile Dominibus. Walter, que vous retrouvez également en podcast sur notre site sudradio.fr. D'ailleurs, tous les rendez-vous de Sud Radio, vous pouvez les retrouver en podcast sur notre site. Je vous laisse avec Laurence Garcia et le Grand Matin Week-end. Je vous souhaite un très bon long week-end de la Pentecôte à l'écoute de Sud Radio.
Le meilleur de Sud Radio.